VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En visite dans le nord du Nigeria, le secrétaire d'État américain John Kerry a félicité l'armée nigériane dans sa lutte contre Boko Haram, mais aussi a mis en garde contre les abus, contre les droits de l'homme. Claire Morin-Gibourg.
John Kerry s'est exprimé après avoir rencontré le sultan de Sokoto, l'autorité religieuse de l'extrême nord du Nigeria. L'extrémisme ne peut pas être vaincu grâce à la répression ou la peur. La répression entraîne la défiance et engendre des terroristes, a déclaré le secrétaire d'État américain, en soulignant l'importance de valeurs comme l'intégrité, la bonne gouvernance, l'éducation et le respect des droits de l'homme pour un combat efficace contre la violence extrême. De nombreuses ONG ont à plusieurs reprises accusé les troupes nigérianes d'avoir usé d'une force excessive ou d'avoir commis des crimes extrajudiciaires contre des supposés insurgés de Boko Haram. John Kerry a néanmoins assuré que Washington continuerait sa coopération militaire et humanitaire avec le Nigeria. Début août, l'USAID a annoncé une enveloppe supplémentaire de 37 millions de dollars pour répondre à la grave crise alimentaire causée par l'insurrection.
Nigeria toujours, l'armée nigériane a annoncé aujourd'hui que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, avait été sérieusement blessé et plusieurs commandants du groupe islamiste tués lors d'un raid aérien gouvernemental sur leur bastion du nord-est du pays. Mais l'armée nigériane a déjà plusieurs fois annoncé la mort de Abubakar Shekau, qui réapparaît régulièrement sain et sauf dans des vidéos du groupe. Gambie, les États-Unis très préoccupés après la mort en prison de membres de l'opposition gambienne. Le deuxième militant du Parti démocratique unifié PDU a décédé en détention depuis le début de la répression contre les manifestations dans le pays. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Solo Kruma avait été arrêté le 9 mai avec 14 personnes lors d'un rassemblement en faveur des réformes électorales. Il est décédé samedi dans un hôpital de Banjul où il avait été admis le 8 août après avoir subi une opération chirurgicale dont on ignore la nature, indique le PDU, son parti. Sa famille n'avait autorisé aucune intervention selon le PDU. Les États-Unis sont vivement préoccupés par la mort de Solo Kruma et inquiets des informations de mauvais traitements et de tortures contre les personnalités de l'opposition en détention, a déclaré le département d'État. Washington appelle à une enquête indépendante sur toutes les allégations crédibles de torture et de mauvais traitements et demande aussi à la Gambie de libérer tous les prisonniers politiques et surtout de cesser la répression à l'encontre de l'opposition.
En RDC, l'appel de l'opposition congolaise a observé une journée ville morte ce mardi sur le territoire national a été partiellement suivi à Kinshasa et ignoré dans d'autres grandes villes du pays. Bagasikoura.
À Kinshasa, à la mi-journée, sur le boulevard du 30 juin, le centre des affaires de la capitale congolaise, la circulation était fluide. Selon l'AFP, les bouchons de l'heure de pointe n'ont pas été constatés. Au grand marché de Kinshasa, 2 magasins sur 5 ont ouvert, mais les vendeurs se plaignent de la rareté des clients. Selon des journalistes de l'AFP, à Lubumbashi, deuxième ville du pays dans le sud-est, les activités se sont déroulées normalement, tout comme à Beni, Goma et Bukavu, trois villes de l'Est, ainsi qu'à Kisangani, dans le Nord-Est. L'appel à une journée ville morte a été lancé par le Rassemblement. C'est une coalition politique réunie autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi afin de réitérer son rejet du facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue politique national en RDC, l'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo.
Toujours en RDC, 2 personnes tuées à la machette lundi soir dans la région de Beni, dans l'est du pays. Théâtre d'une série de massacres attribués aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, ADF. L'incursion des ADF a quitté après Doicha hier soir, a fait 2 tués à la machette, 5 blessés, 7 maisons brûlées et 4 motos incendiées, a déclaré à l'AFP le lieutenant Mark Azukai, l'un des porte-parole de l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu, en précisant qu'une intervention rapide des forces de sécurité a évité de lourdes pertes dans la population civile. Au Gabon, la campagne pour la présidentielle bat son plein à quelques jours de l'élection de samedi. Le président candidat Ali Bongo est partout, alors que l'opposition brille par son absence, d'après l'AFP. Face à son principal rival Jean Ping, 73 ans, Ali Bongo Ondimba, 57 ans, joue la carte de la rupture avec l'ancien régime de son père Omar Bongo, resté 41 ans au pouvoir. Les deux camps s'accusent mutuellement d'incitation à la haine et les Gabonais commencent à craindre des violences après le scrutin.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Zambie, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir censuré 3 organes de presse, une chaîne de télévision et 2 radios privées au lendemain de la réélection d'Edgar Lungu à la présidence. Plus de détails avec Chérubin Dorsil.
Un communiqué officiel a indiqué hier le retrait des licences de fonctionnement de Movie TV, Radio Comboni et Radio Itezi Tezi. La mesure qui est entrée en vigueur dès sa publication par l'autorité zambienne de l'audiovisuel, IBA, est décriée par l'opposition politique. L'IBA reproche aux 3 stations d'avoir violé les règles établies pour la couverture du scrutin présidentiel. Par exemple, Movie TV est accusé de désinformation et d'incitation à la violence lorsque la chaîne a fait état d'actes de vandalisme commis par les partisans du président sortant, aujourd'hui réélu. Edgar Lungu devait prêter serment ce mardi, mais la cérémonie a été reportée en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle sur un recours introduit par son rival Hakainde Hichilema. Ce dernier accuse le gouvernement zambien d'atteinte à la liberté d'expression. Lungu a été réélu avec juste un peu plus de 50% des suffrages le 11 août dernier.
En Afghanistan, un soldat américain tué ce mardi lors d'une opération anti-taliban près de Lashkarga, capitale de la province du Helmand, dans le sud du pays. C'est ce qu'a annoncé l'OTAN en soulignant qu'un autre soldat américain et 6 militaires afghans ont été blessés. Ces décès interviennent après l'annonce lundi de l'envoi d'une centaine de soldats américains à Lashkarga, leur premier déploiement d'ampleur dans cette ville du sud de l'Afghanistan depuis le retrait des troupes étrangères en 2014. Les combats se sont intensifiés récemment dans le Helmand, province qui représente 80% de la production mondiale d'opium. La guerre en Syrie maintenant, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, ne mâche pas ses mots concernant le conflit. Selon lui, les hostilités à Alep, la grande métropole du nord syrien, pourraient provoquer une catastrophe humanitaire sans précédent depuis le début de la guerre. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
Monsieur O'Brien a fortement exprimé sa colère hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU face à la situation à Alep qui subit une catastrophe humanitaire sans précédent. Il a également déploré qu'aucun convoi humanitaire n'ait pu entrer dans les localités assiégées de Syrie pendant le mois d'août. Le diplomate a exhorté une nouvelle fois tous les belligérants à appliquer un cessez-le-feu ou au moins une pause de 48 heures dans les combats afin de permettre l'envoi de 50 camions de l'ouest vers l'est si la sécurité des convois est assurée et d'un premier convoi de 20 camions depuis la Turquie directement vers l'est. Il a aussi demandé instamment aux membres du Conseil et en particulier la Russie et les États-Unis de se mettre d'accord pour favoriser cette trêve.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump a enjoint l'ex-président Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidence, de fermer la fondation Clinton, entreprise très corrompue selon le milliardaire républicain. Le point avec Jacques Aristide.
Comme à l'accoutumée, Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Les Clinton, dit-il, ont passé des décennies à se remplir les poches en s'occupant de leurs donateurs au lieu des Américains. Le candidat républicain a appelé la Fondation Clinton à rendre les dons aux pays qui, d'après lui, ont discriminé contre les femmes et les gays, une allusion à l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui ont versé des millions de dollars à la Fondation au cours des années pendant lesquelles Hillary Clinton dirigeait la diplomatie américaine de 2009 à 2013. Le camp républicain parle de conflit d'intérêts. Des messages ont également été découverts récemment dans lesquels un proche de Bill Clinton à la Fondation écrivait à 2 proches collaborateurs d'Hillary Clinton au département d'État pour demander à ce qu'un donateur de la Fondation, le milliardaire libano-nigérian Gilbert Chagouri, soit reçu par un responsable diplomatique américain au Liban. En fin de semaine dernière, Bill Clinton a annoncé qu'en cas de victoire de sa femme en novembre, sa Fondation n'accepterait plus de dons en provenance de l'étranger ou d'entreprises et que lui-même démissionnerait membres du conseil d'administration. Le directeur de campagne d'Hillary Clinton, Robbie Mook, a lui rappelé que la fondation fournissait des traitements contre le sida à plus de 10 millions de personnes ou qu'elle avait réduit le coût des médicaments contre le paludisme de 90%.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.